Ce film a totalement terni l'image de deux de nos plus grands héros de notre enfance et adolescence, Frodon et Buffy Summers.
Tu aimes les films d'horreur?
Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer?
Regarde ce que tu m'as fait.
Red Rum! Red Rum!
Attention, ils viennent te chercher, Barbara.
Déguster son foie avec des fèves au beurre.
Regardez-moi ça, ils ont jamais vu ça ou quoi? On dirait du ketchup, ça craint.
Salut les cinéphiles, les sérivores et les fans de films d'horreur, bienvenue dans ce nouvel épisode. On était super contents de pouvoir découvrir ce film au cinéma, Ready or Not, Here I Come 2. On avait vu le premier, ça a commencé à dater, c'était pendant le Covid, je me souviens. Yann, tu t'en souviens?
Salut tout le monde, alors oui bien sûr, tu veux parler de l'épisode de Nightmare, Wedding Nightmare en français. Alors ce qui est marrant c'est que ils ont gardé un titre anglais en français, ils auraient pu à ce moment-là regarder Ready or Not, hein, si c'était pour faire du titre en anglais.
En vrai on peut faire un épisode entier pour débattre des titres des films d'horreur.
Ouais, il faudrait, mais oui, et bien sûr, je me souviens du premier visionnage. D'ailleurs, c'était le premier film qu'on a regardé pendant qu'on était malade. Voilà, donc c'était cool hein, d'avoir toujours des films d'horreur pour, comme film doudou hein, pour nous rassurer. Évidemment, on est de ce genre de personnes qui nous endormons devant un bon récit true crime, hein, je sais pas si c'est votre cas.
C'était une belle surprise et ça faisait vraiment plaisir de voir un film d'horreur au cinéma à nouveau et puis de retourner au cinéma parce que vous doutez bien, il n'y avait pas d'épisode parce que ça faisait un moment qu'on n'a pas pu y aller. On a beaucoup bougé pendant le mois de mars et on était aussi à des endroits où il n'y avait pas de cinéma. On était sur plusieurs îles où il n'y avait pas de cinéma. Sur une île qui était grande, mais il n'y avait pas de cinéma. Il y en avait un, mais il était fermé pour rénovation et il a réouvert quelques jours après qu'on ait quitté l'île.
Et le pire surtout, c'est que on enchaîne en fait les logements avec des mauvaises connexions internet et puis nos sites références, on pouvait un petit peu regarder du streaming, on avait un peu de mal en ce moment et puis on n'a plus de connexion de plateforme donc à niveau film d'horreur, pareil, on est super limité.
Et du coup, une fois arrivé à Kuala Lumpur, vous vous doutez bien, il y a plein de cinémas et là on a profité, on est allé voir trois films dans la même semaine. Dont celui-ci, et on était voir Projet Dernière Chance. J'avais tellement, tellement hâte de voir ce film, et il était vraiment époustouflant. C'est vraiment, c'est plus qu'une pépite, c'est un bijou. C'est pour moi déjà le meilleur film de l'année. Donc vraiment, si vous aimez la science-fiction, même si c'est qu'un tout petit peu, foncez, allez le voir au cinéma tant qu'il y est encore, parce que c'est vraiment un film à voir sur le grand écran.
Je pense que ce serait la science-fiction un peu tout public, hein, comme l'avait été à une époque Seul sur Mars. D'ailleurs, c'est le même écrivain, c'est le même auteur de Seul sur Mars qui a écrit, là-bas, c'est un livre, Projet Dernière Chance, qu'il faut absolument que je lise et il faut absolument que je termine le Stephen King que j'ai en cours. Hein. Je me suis entamé la saga de la Tour Sombre, j'en suis qu'au premier tome. Mais bon, c'est pas grave, on va rattraper tout ça au cours de cette année. Et oui, c'était une grande pépite. Une émotion comme on n'en a jamais rarement eu, c'était même de l'ordre émotionnellement parlant de E.T. D'ailleurs, il y a clairement des références à E.T., hein, clairement des références à Spielberg, la musique est prenante. On était face à un Spielberg avec du high level au niveau de l'histoire, du high concept même. Voilà, c'est super. Et puis du coup, ça a redonné un coup de boost. Je pense, j'ai pas regardé les statistiques, mais à mon avis sur Spotify, Harry Styles a dû remonter dans les écoutes parce que la scène est devenue culte pour le coup.
Oui. Voilà, donc maintenant on va revenir sur notre film hein, qui fait l'objet de cet épisode, Wedding Nightmare. J'allais redire Ready or Not parce que ça a plus de sens quand même parce que c'est le jeu qu'elle est obligée de jouer. Hein, l'épouse Samara Weaving, elle est obligée donc de se cacher dans le premier film. Hein. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, normalement oui, sinon vous n'écoutez pas cet épisode. elle s'était mariée. Après, il y a une soirée à la fête du mariage et elle tire une carte au sort et elle croit vraiment que c'est un jeu. Même nous, en tant que spectateurs, on se dit oh, c'est un jeu vraiment bizarre, la famille elle est étrange, mais voilà. Et elle tire cette fameuse carte Hide and Seek, donc de cache-cache, et elle doit se cacher tout au long de la nuit et ne pas se faire attraper par un membre de la famille. Et si un d'eux l'attrape, il la tue. Et le but, c'est de la tuer. C'est très joyeux comme nuit de noces.
Mais en fait, ce qui est incroyable, en fait, c'était la force du premier film, c'est que on part sur un thriller d'abord. Voilà, on sait que sans forcément trop regarder la bande-annonce, on se doute qu'il y a une horreur qui va se passer. Une famille de Bourges, un peu bizarre. Voilà, on la découvre un peu au fur et à mesure. Il y a toute cette tradition autour du jeu. Et après, la force du film, c'était le twist où à un moment donné, la famille échoue et les membres de la famille se mettent à exploser les uns après les autres. Et c'est là où on apprend un peu cette malédiction. Et on se doutait pas une seule seconde qu'on allait virer dans le surnaturel, dans le paranormal en fait, hein, carrément, et qu'on pensait que c'était on va dire une version. Huis clos, on va dire, de American Nightmare. Encore des gens qui s'acharnent sur une même personne, une autre personne qui doit s'échapper. Enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est que le démon, en fait, parce qu'on apprend que la famille a fait un pacte avec une sorte de démon, enfin disons un ancêtre de la famille a fait un pacte avec un démon qui s'appelle Monsieur le Bail, Monsieur le Bail, qui est appelé comme ça. Qui est d'ailleurs un anagramme pour Bélial, qui est aussi un terme utilisé pour désigner le diable dans la Bible. Et bien en fait, il est interprété, alors on le voit rapidement, mais il est interprété par James Vanderbilt, qui à la base est producteur et surtout scénariste. Et on le alors peut-être que voilà, son visage ne vous a peut-être rien dit, mais en tout cas, on le connaît pour quelques gros bons projets. Hein. Il a notamment écrit Amazing Spider-Man. Donc, vous savez, l'Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Et il a fait notamment Scream 6. Scream 6, projet auquel ont participé également les réalisateurs du film. Donc, ils ont toujours bossé ensemble. Mais il est surtout aussi connu aussi pour son autre gros scénario Zodiac, hein, c'est lui qui a écrit Zodiac, le film tu vas m'aider, je ne sais plus.
Le film du tueur du Zodiac.
Oui, quel réalisateur. J'ai oublié le nom du réalisateur tout d'un coup, là, c'est pas possible.
Et tu me demandes ça à moi non plus, je sais plus maintenant.
Et on le connaît, c'est celui qui a fait Alien 3. Bon, c'est pas, on s'en fout, on reviendra là-dessus plus tard, mais bref, tout ça pour dire qu'à la base, il est scénariste et producteur, il a du coup déjà bossé sur des films avec les deux réalisateurs, donc Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett. Et je m'éloigne complètement, mais oui, tout ça pour dire, le twist était énorme, ce qu'on n'a plus du coup dans le 2.
Oui, dans le 2, c'est complètement différent. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que le deuxième film, il commence vraiment quand elle sort de la maison. Elle a sa robe de mariée ensanglantée, elle s'allume une cigarette et la maison est en train de brûler derrière elle. C'est le petit matin. C'est vraiment la suite directe, on continue directement. Après, elle est emmenée à l'hôpital. Elle se repose peut-être une nuit, quelques heures, même pas la pauvre. Et c'est reparti.
Mais je crois que c'est ça, hein. c'est quasi en temps, c'est le lendemain directement en fait, hein. C'est genre quelques heures parce qu'ils doivent recommencer la journée jusqu'au lendemain parce que c'est la malédiction en fait.
Oui, c'est ça, donc complètement épuisée, il y a sa sœur, elle est à l'hôpital. Et Grace est à l'hôpital et elle parle avec le policier et qui lui pose des questions. Hein, vous avez tué toute une famille, machin. Voilà, ça va mal se passer pour elle. C'est presque sûr qu'elle va finir en prison. Et là, tout à coup, il y a sa sœur Faith qui arrive. Faith, j'adore cette petite référence à Buffy. Je sais pas si c'est fait exprès.
Mais d'ailleurs, il y aura plein de références à Buffy hein, aussi. Hein,
oui, il y en a d'autres en plus, oui. Donc, Faith, interprétée par Catherine Newton, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup cette actrice. Et on apprend en fait que les deux sœurs ne se parlent plus depuis très longtemps et que Faith est encore le contact d'urgence de Grace. C'est pour ça qu'elle est allée à l'hôpital voir sa sœur. Et en fait, elle ne se parlait plus depuis longtemps. Grace était un peu plus âgée. Elle avait quitté leur domicile, leur famille d'accueil. Elles étaient dans une famille d'accueil. Et elle a laissé sa sœur et elle lui a promis de revenir la chercher, qu'elle allait à New York trouver du travail, étudier, et dès qu'elle aurait de l'argent, elle irait la rechercher. Mais ça ne s'est pas fait, et après, quand elle a essayé de la contacter, ben, Faith ne répondait plus, et du coup, elle ne lui parlait plus, et c'est comme ça que les années ont filé, 6 ou 9 ans, je ne sais plus, mais il y a quand même pas mal d'années qui sont passées.
C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de Faith, donc Faith no more. Si quelqu'un a la référence de ce groupe... je lui paye une bière s'il y a un Prague. Mais oui, et c'est la relation entre les deux sœurs qui était intéressante tout au long du film, parce que pour une fois, disons, c'est rare de nos jours dans les films d'avoir une dimension humaine, en fait, une dimension un peu sentimentale dans les films d'horreur.
Mais aussi forte.
Oui, c'est vrai, aussi forte, et ce qui va peser en fait sur les décisions à venir, et tout ça est très bien construit, et ce qui est intéressant, c'est que à la base, il devait de toute façon y avoir une relation de sœur, en fait, une histoire de sœur avec les deux actrices, sauf que c'était pas forcément dans ce film-là, en fait. À la base, ils voulaient faire un film complètement indépendant, les réalisateurs, donc avec Catherine Newton et Samara Weaving, et c'est Searching Pictures, donc la boîte de prod, qui leur ont demandé une suite à Ready or Not. Et du coup, ils ont adapté leur histoire de relation de sœur dans Ready or Not. Et je trouve que ça marche du tonnerre, hein, quand même, parce que c'est un scénario qu'ils ont dû inventer un petit peu sur le vif, quoi. C'est...
Oui, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Et tu m'étonnes que Searchlight Pictures voulait une suite, parce que le premier film avait coûté seulement 6 millions. C'était 6 millions environ le budget, et le film a rapporté plus de 50 millions. Et là, il a coûté plus que 6, je ne sais plus, je crois à peine une dizaine, mais il est déjà ouais, 11 millions, 11 millions 2, et il est déjà à plus de 31 millions. Et il est encore au cinéma, quoi. C'est impressionnant. Et surtout qu'ils ont attendu aussi longtemps pour commander la suite, parce que le premier film est sorti en 2019. Et là, on est en 2026. Ça a mis du temps quand même à se mettre en place.
Mais c'est là où, du coup, j'étais en train de penser. Mais on voit pas trop le vieillissement, en fait, sur l'actrice, parce qu'on a l'impression que ça reprend en fait vraiment pile où ça s'est terminé. Du coup, ils ont dû rejouer forcément la scène 6 ans plus tard. C'est ouf.
Oui, c'est ça, exactement. Parce que je pense qu'ils... Ou alors ils ont repris l'extrait, parce que je ne sais plus. Si vous, c'est plus frais dans votre tête, dites-le nous dans les commentaires. Est-ce qu'ils ont juste repris la fin Ou alors ils avaient... soit c'est exactement la fin du premier, soit... ils avaient coupé la scène, elle est plus courte, la scène, en fait, dans le premier film qu'ils ont sorti, et ils avaient des rushs qu'ils ont utilisés, en fait, pour le début, là. C'était plus long, c'est aussi cette possibilité. Faudrait vraiment revoir le premier pour savoir ça.
Ouais, c'est vrai qu'on a pas vu, on voulait le revoir, et puis on l'a pas retrouvé sur le net, donc du coup, voilà. Mais en tout cas, ce que j'en ai tiré du film, c'est que j'étais venu au cinéma juste pour voir de toute façon de la violence, une fille qui se défend contre une bande de tarés, et on a été plus que satisfait, je pense, du résultat, mais je m'attendais pas. À ce qu'ils allaient chercher une explication en fait au jeu. Ils ont étendu la malédiction à plusieurs familles. Là, c'est carrément un conseil de famille, de plusieurs familles réunies qui doivent se battre pour avoir le pouvoir ultime, hein, qui est représenté par une bague. Après, la règle du jeu, de toute façon, là, si on repense comme ça, la règle du jeu Elle est absurde. Enfin, ça serait juste le jeu Hide and Seek qui déclenche la malédiction, mais pas les autres jeux, parce que c'est une famille de joueurs. Et ouais, c'est un peu bizarre, hein, cette histoire, en fait. Parce que si elle a survécu à telle famille, pourquoi elle survit? Ah oui, parce qu'il déclenche le jeu. Oh, ouais, je.
Oui, bah en fait, c'est parce que elle a survécu à sa belle famille et c'est ça qui a enclenché la suite, exactement comme tu dis. Mais
Et comme par hasard, c'est ça. Donc du coup, ça fait, enfin, c'est comme si tu ajoutes une règle du jeu à la dernière minute. C'est un peu ce.
comme le film est sorti après, ben c'est logique, ça fait forcément cet effet-là.
Bien sûr, ouais. Mais je pense pas qu'il faut vraiment pousser la réflexion sur ce détail-là, même si quand même.
Non, moi je pense pas. Je pense que ben, tout au long du film, c'est une satire hein, pour moi. C'est on se moque de ces des satanistes en fait finalement, mais de manière pas stupide, de manière intelligente en fait. On se moque de ces personnes qui sont prêtes à tuer des gens. Il y a tout le temps des références. Par exemple, il y a le personnage incarné par Sarah Michelle Gellar, Ursula. Ursula, comment est-ce qu'il peut l'appeler comme ça? C'est horrible.
Ah mais oui, parce que attends, Ursula, c'est pas un personnage en Buffy.
C'est Drusilla.
Ah, Drusilla, oui, voilà.
Ah, bref, Ursula. Ursula, mon Dieu, j'en reviens toujours pas. À un moment, elle dit, elle parle avec Grace, elles ont une conversation et elle lui dit, tu sais, il y a pas les bons et les méchants en fait. Il y a que des méchants. Et puis après, il y avait aussi un autre personnage de, c'était l'épouse d'un des Indiens qui disait, on est, il y a que 1% de bons, un pourcentage de bons en nous, le reste c'est mauvais, ou personne n'est bon, tout le monde est mauvais. Enfin, il y a toujours ce, il y a plein de répliques comme ça pour jouer là-dessus sur le bon, méchant. Et puis ils s'en fichent complètement d'être bon ou méchant, ils veulent juste de l'argent en fait. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent être invincibles, avoir de l'argent et faire ce qu'ils veulent en fait. Et les enfants sont pareils. Le garçon le plus jeune, quand c'est son tour, parce que son père est mort et sa mère aussi, eh
Ouais,
bien il
ça
va
fait une
prendre.
lignée, effectivement. C'est là une des règles du jeu.
Oui, si le père il meurt, bah, c'est la personne la plus âgée après, donc ça peut être la mère, après ça peut être la grande sœur, voilà, ainsi de suite, selon la composition de la famille. Et lui, il va, il prend ses deux petites mitraillettes et il veut tuer Grace, quoi, comme si de rien n'était. Il fait ça comme si, je sais pas, et il fait une partie de badminton, alors que c'est un gamin quoi. Et j'ai beaucoup aimé l'humour. L'humour, il était vraiment excellent dans le premier, d'après mes souvenirs, c'était aussi un bon humour, mais là, je trouvais que c'était supérieur. Il y avait vraiment des très bons dialogues tout au long du film. Il n'y avait pas des dialogues inutiles. Il n'y a aucun dialogue même inutile. Tout est c'est très dynamique. Les morts sont vraiment excellentes. Ça, c'est un gros bon point du film. Le côté gore, il est vraiment excellent.
L'originalité, effectivement, il faut toujours trouver une mort encore plus absurde, encore plus sanglante. Et je pense que je n'ai encore jamais vu de personnes se faire tuer dans un lave-linge, en fait, dans une machine à laver. Et c'était d'une violence. Parce que ils insistaient bien et on entendait le mec agoniser en fait, ce qui est rare hein, d'insister sur des morts et puis après on voit son visage se décomposer. Enfin c'est vraiment excellent quoi. Et puis ce petit côté un peu humour noir où ils doivent récupérer du coup son téléphone, je crois ça dans sa poche. Enfin c'est super. Par contre il y a un point. Qu'ils ont oublié, je trouve, c'est que la sœur, elle prend trop de. Pas qu'elle prendrait du plaisir, mais elle s'habitue trop vite à voir des gens mourir devant, alors que pourtant, elle est censée être innocente ou elle a eu un passé tumultueux, on sait pas. Généralement, quand t'as jamais vu de mort de ta vie, t'es censé vomir tes tripes ou t'évanouir, ou je sais pas. Il est censé se passer un truc, mais là, elle réagit un peu trop normalement, je trouve.
Après, je crois que ça arrive dans la plupart des films d'horreur. Rarement les réalisateurs ou les scénaristes pensent à faire vomir les personnages. Après, ce serait relou au bout d'un moment à chaque fois de voir les gens vomir. Oh non, c'est dégoûtant. Je peux pas. Oh non, 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 non. Et tomber dans les vapes comme ça tout le temps dans les pommes. Et voilà, le film il s'arrête pendant 10 minutes, temps mort, le temps que l'autre elle se réveille. C'est pas possible.
Ça serait excellent à méditer hein, pour un Scary Movie 7 ou 8. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on a droit à un Scary Movie cette année. Et, vu la bande-annonce, ça a l'air très drôle quand même.
Je sais plus. Je crois qu'il y avait une polémique où la Gen Z avait dit que ce film allait pas être drôle. Je sais plus trop pourquoi, mais. Mais et en même temps, ils n'ont pas connu le premier, donc ils peuvent pas trouver ça drôle.
Ah, mais c'est parce que les frères Wayans, bah, ils continuent avec leur humour du premier, quoi. C'était les années 2000, c'est maintenant on fait un peu plus attention à plein de choses au lieu d'en faire des blagues, tu vois. Mais ils continuent sur ce qu'ils ont fait, tout simplement, en fait. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui.
Et on a quand même pas parlé de ce cher Elijah Wood qui nous fait un caméo même pas un caméo, je dirais, il a carrément un rôle de ouf. Hein.
Mais il était excellent, franchement, j'ai adoré. Hein, sa prestation était trop drôle. Il avait peut-être au total une quinzaine ou vingtaine de minutes, mais franchement, chaque seconde où il passait à l'écran, c'était hilarant. C'était un mourir de rire pour moi. Et moi, il me faisait trop rire. Comment il prenait son rôle au sérieux de l'avocat du diable, c'était hilarant.
Alors que il est juste, il a pas, il est pas bâti pour ce type de rôle. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense qu'il jouait. Là, c'est Frodon qui jouait le rôle de Sauron.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Frodon, mon dieu.
Ah, mais ils nous l'ont transformé en tueur. Déjà, je le trouvais pas. Moi, c'est juste un ressenti personnel, mais je le trouvais pas spécialement crédible en tant que tueur dans Maniac, mais parce qu'il a une tête de gentil, en fait, c'est tout. Hein. J'ai juste dire, c'est le mec, il a quel âge ? Il a plus de 40 ans passé. Il en fait toujours dans la trente. Enfin, il vieillit pas, en fait. J'ai l'impression qu'il vieillit vraiment au ralenti, et il a toujours cet air un peu de candeur, un peu innocent comme ça. Bon, voilà, ça passe pas du tout. Mais à la limite, il aurait pu jouer à un personnage similaire que dans The Faculty, par exemple.
Mais c'est ça qui est drôle, je trouve, justement. Avec ses grands yeux bleus, avec son regard innocent, l'air de rien comme ça. C'est ça le côté drôle, justement, je trouve. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire vers la fin, quand il y a le grand rituel. Où il a son masque là sur sa tête, enfin, il a son costume et qui protège le livre. Où à chaque fois qu'il y a quelque chose qui risque de tomber sur le livre, il passe vite la main pour vérifier qu'il n'y a rien. C'est trop drôle. Et c'était une des raisons d'ailleurs où j'avais vraiment hâte de voir la suite. Hein. Elijah Wood et Sarah Michelle Gellar, quand même, hein. Les deux dans le même film. C'est vraiment. Je crois qu'on a eu droit à ça une fois, on n'aura pas droit à ça deux fois. C'est un miracle du cinéma, en fait, hein, finalement. Et ce qui était drôle, j'ai remarqué ça après en regardant qui avait joué dedans, parce que parfois, il y a des acteurs qui ont vieilli, on ne sait plus trop à quoi ils ressemblaient avant, ou ils n'ont pas joué dans trop de films. Et c'était le cas pour l'acteur qui interprète le frère de Ursula, donc de Sarah Michelle Gellar, qui est interprété par Sean Hattosy. Et quand je l'ai vu à l'écran la première fois, j'étais là, mais sa tête me dit quelque chose, mais impossible de savoir. Et plusieurs fois, j'étais là, mais je l'ai déjà vu quelque part, mais où ? Impossible. Et quand je vais voir l'affiche du film, après la séance du cinéma, j'étais là, mais oui. The Faculty, effectivement. C'est le quarterback dans The Faculty. Donc, c'était une réunion aussi inespérée. Hein. Comment il a pu se retrouver avec Elijah Wood de nouveau dans un film, quoi. Et en plus, un film d'horreur. Hein.
Et quand tu parles de réunion inespérée, dans un vraiment tout autre genre, mais là on est carrément... Elijah Wood qui reprend son rôle de Frodon, mais sans être Frodon, il joue un tout autre rôle, mais il retourne vraiment en terre du milieu. Alors je sais pas, j'ai pas retrouvé l'affiche en français, mais c'est Bookworm, le film. Je sais pas si vous l'avez vu, nous on l'a trouvé sur un site en stream, en fait. Je sais même pas s'il est sorti au cinéma en France, mais on a eu quand même un doublage, mais je crois que ça doit être le doublage québécois ou je sais pas. Je suis pas trop sûr, mais voilà, dans ce film, il retourne vraiment en termes de milieu, parce que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande et notamment dans l'un des parcs nationaux. On reconnaît vraiment les décors du Seigneur des Anneaux, quoi. Et le voir, voir Elijah Wood dans un tel décor, ça donne un effet C'est assez fou hein, quand même. Et puis surtout son rôle, hein, il joue le rôle d'un père, enfin qui revient voir sa fille hein, qu'il avait un peu abandonnée. C'est un père un peu démissionnaire. C'est un magicien, non? Il est pas père.
Si, 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 il est père, mais il n'est pas démissionnaire. En fait, il avait eu une, il était sorti avec une femme et ils se sont séparés en fait. Elle est retournée en Nouvelle-Zélande et lui, c'est un Américain, il est resté aux
Ah
États-Unis.
oui, c'est vrai.
Et il savait pas du tout qu'elle était enceinte et qu'elle a eu une fille. Il est contacté parce que la mère de la fille a fait un AVC, une crise cardiaque, je sais plus quoi. Dans la cuisine, c'est tout au début du film, et du coup la fille se retrouve toute seule et c'est lui le père et du coup il va venir s'occuper d'elle et c'est vraiment une très belle histoire. Je l'ai vraiment adoré ce film, il est très beau et la fille est interprétée par une actrice que vous avez déjà vue si vous regardez Stranger Things. C'est l'interprète de Holly Wheeler et son vrai nom c'est Neil Fisher. Donc c'est son premier film, hein, elle avait Non, un de ses premiers films, enfin premier film où elle a le
Oui,
rôle principal.
parce qu'elle a un petit rôle hein, dans Evil Dead Rise.
Oui, elle jouait une des enfants, oui, c'est ça. Parce que Evil Dead Rise, c'est la mère qui pète un câble dans l'appartement. Il était vraiment, vraiment cool. Mais il y a le. On avait déjà parlé, mais il y a le.
Il y a la
La, il y a, je
suite.
sais pas si c'est la suite, mais c'est un
Ouais.
nouveau Evil Dead qui arrive cette
C'est
année, oui.
ça, le réalisateur de Vermine qui va nous pondre un bon truc là, je pense, au mois de juin. J'ai hâte, je sais pas, on sera en juin, je sais pas si on pourra le voir, mais j'espère qu'on pourra le voir hein, quand même, hein. On verra.
On verra.
On verra. Oui, donc Bookworm, voilà, un film à retenir. Si vous tombez dessus, c'est voilà, c'est magnifiquement bien filmé en
C'est une
plus.
pépite, il est
Voilà.
très drôle. Il sait vraiment. Et Elijah Wood, il est hilarant parce que c'est un illusionniste en fait qui a pas de succès, qui est vraiment un peu naze et il fait un peu pitié quand même. Au début, on le trouve con, après on a pitié, on sait pas trop en fait. Hein. Et après, et du coup, il part avec sa fille faire du camping parce qu'elle veut prendre en photo une panthère, un animal en voie de disparition. Et il y avait un prix à gagner si on prend en photo cette panthère là. Voilà. Ils partent faire du camping en pleine nature et vraiment des beaux paysages.
Ah
Enfin,
ouais,
comme
c'est
Diane
un road
disait,
movie, hein,
c'est un. Oui,
et encore une.
un foot movie parce qu'il marche. Hein.
Ouais.
Ils sont pas sur la route, hein. C'est à pied.
C'est vrai. Et pour rester un peu sur les grands retours, hein, du coup, on va reparler un petit peu, je pense, de Sarah Michelle Gellar, qui nous fait carrément une sorte de Buffy un peu. Bah voilà, sous, un peu démoniaque, hein, sous l'emprise du démon. Et elle reprend, je trouve, un peu ses mimiques, sa manière de manier les armes, notamment.
C'est juste.
Ouais, c'est. Elle a. Ouais, bah, c'est impossible de pas penser à Buffy. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que dans une. Dans le film, elle est habillée comme Buffy dans un des épisodes, en fait. Et elle s'en était même pas rendue compte. Elle avait pris des fringues.
Non, pas Sarah Michelle Gellar, Catherine Newton.
Ah oui, Catherine Newton, j'ai confondu.
Oui, elle a les cheveux attaché comme ça en haut et elle a un t-shirt blanc et une chemise en jean ou une chemise bleue en fait. Mais c'est la tenue qu'elle a en fait pendant quasi tout le film, sauf qu'après elle se retrouve sans chemise et elle a plus les cheveux attachés. Enfin, bref, à force de se battre et de se faire battre surtout, hein, la pauvre, parce qu'elle en prend vraiment cher, hein, Catherine Newton, la sœur Faith, la sœur de Grace.
Et Face, du coup, qui voilà, il y a un rapport avec Buffy
Oui, aussi,
directement.
oui. L'autre truc, c'est que les réalisateurs, eh bien, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va donner comme arme? Qu'est-ce qu'on va lui donner comme arme? Elle a tout utilisé. Alors, il pense à une arbalète. Elle dit, non, les gars, j'ai utilisé arbalète, arc aussi. Même utilisé un lance-roquette. Parce que là, il y a un
Mais
lance-roquette.
ils ont quand même gardé la lance-roquette, parce que
Voilà,
c'est.
mais c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise. Mais oui, c'est sûr qu'elle a vraiment eu absolument toutes les armes, tout objet même impossible hein, pour tuer les vampires, hein, que ce soit la queue de billard, n'importe quel bout de bois, des pics qu'elle sort du sol, des chaises qu'elle casse.
Ouais.
Elle a tout utilisé, hein, je crois.
Ouais.
C'est la queen. Hein.
Ouais.
C'est la queen.
Eh ben, la Queen, elle le fait très bien. D'ailleurs, elle domine hein, complètement. On aurait pu penser que c'est le personnage du frère, en fait, qui domine. Mais là, visiblement, elle est un peu plus perverse que lui. Et quoi que d'ailleurs, pour revenir un peu sur le personnage du frère, je trouve que ils auraient pu un peu mieux le développer parce que on sent bah, déjà au début quand il tue le père pour avoir la succession, hein, pour arriver. Pouvoir eux-mêmes relever le défi de cette malédiction, quoi, tu es la mariée. On remarque déjà que Sean Atosi, donc c'est Titus, en fait, voilà, j'ai retrouvé son nom, Danforth, il est un peu bizarre, il est plus pervers que sa sœur. Limite, il insiste en fait pour être sûr que son père, leur père, soit mort. Et des fois, il a une attitude un peu bizarre. Comme s'il était possédé, je sais pas, comme s'il allait se transformer en une bête féroce. Et on dirait que sa sœur, enfin du coup, joue un peu un rôle de catalyseur, essaye de le calmer. Et c'est comme si elle était au courant de son état d'esprit, mais c'est pas développé. De même que on a presque l'impression qu'ils ont une relation incestueuse en fait. C'est induit, je trouve.
Oui, c'est vrai que leur relation est vraiment bizarre. Et puis, dans une discussion entre Grace et Ursula, elle lui raconte que son frère, il est très dangereux. Il est bien plus dangereux qu'elle peut l'imaginer, en fait. C'est vraiment le mal, il faut empêcher qu'il atteigne le siège, quoi, le haut siège, qu'il a tout le pouvoir, en fait. Parce qu'il serait capable de détruire la Terre, de tuer tout le monde. Il est complètement fou, en fait. Et je me souviens que tu disais, ah, tu comprenais pas trop pourquoi ils ont tué le père. Mais c'était logique, parce que le père, il est mourant, il est au lit. Et si le père ne va pas tuer, ils peuvent pas choper le siège. Et il meurt aussi après eux. Tu vois?
Ouais. Oui,
Lui,
bah
il
oui,
pouvait...
c'est logique.
Lui, c'était le père qui avait de toute façon la bague. Mais ils ne pouvaient pas la donner à leur enfant, en fait. Donc, et lui, il pouvait pas aller la récupérer de nouveau, il était trop faible. Donc, il devait mourir pour que eux puissent la récupérer, pour que ça reste dans la famille, tout simplement, en fait.
Ouais, mais d'ailleurs, il y avait une scène coupée, en fait, j'ai envie de repenser, où à la base, elle devait tuer. Enfin, à la base, c'est son frère qui devait la tuer, en fait. Eh bien, au moment de mourir, en fait, elle devait dire je t'aime, en fait. Donc là, c'est carrément affirmé, cette relation un peu étrange. Mais ouais, peut-être dans le 3, parce qu'apparemment, peut-être qu'il ferait un 3. Mais qu'est-ce qu'il ferait? Alors, est-ce que ça serait un préquel? Et là, ça serait aussi peut-être intéressant de cette malédiction. Pas forcément traquer encore une fois une personne, mais faire quelque chose d'un peu plus surnaturel, peut-être bah, s'attarder justement sur cette fameuse famille et peut-être cette relation. Enfin, en tout cas, il y a des personnages encore obscurs qui pourraient être développés. Moi, je pense qu'à mon avis, l'arc narratif des deux sœurs est terminé. Pourquoi pas partir sur quelque chose d'autre, hein. Ils l'ont bien fait pour 20 jours plus tard.
Oui, exactement. Ils peuvent partir sur complètement autre chose. Et puis là, c'était un groupe de famille. Donc il y a forcément un autre groupe de famille. Ça peut pas être, c'est pas obligé d'être un préquel. Ça peut être un autre groupe de famille qui fait un pacte pareil, en fait. Et du coup, ils peuvent de nouveau utiliser Elijah Wood. Ce serait cool.
C'est vrai.
Et ce que je voulais dire aussi, c'était. Que la scène finale, sans entrer dans les détails, le dernier plan en fait, quand on voit les sœurs quitter le domaine, j'ai trouvé ça vraiment trop cool comme c'était filmé, les deux qui partent badass dans leur tenue
Ouais,
imbibée de sang, c'était excellent, et avec la chèvre
ouais.
qui prennent avec, et puis t'as Grace qui allume sa cigarette
Enfin, sa cigarette, elle n'a pas eu
ouais.
depuis le début du film.
Depuis l'hôpital, à chaque fois elle dit je veux une cigarette, je veux une cigarette, et tout le monde l'envoie bouler, elle peut pas avoir sa cigarette. Et franchement, et puis je trouve que c'est le costume parfait d'Halloween, quoi, se déguiser en Grace et Faith là à la fin du film, c'est pépite, hein.
Alors, on aura peut-être le droit à quelques, sûrement des Américains qui vont s'acheter la panoplie, voilà, auxquelles on n'aura pas accès.
Bah, tu peux improviser, hein. Faut juste une robe de mariée que tu as imbibée de faux sang. Et l'autre, elle avait une robe noire, il suffit de se coiffer un peu. Et puis voilà, bon après, il faut une chèvre aussi.
Ouais.
Ou
Ouais,
tu déguises un
d'ailleurs,
chien en chèvre.
c'est quand même cool hein, qu'ils ont utilisé une chèvre, une vraie chèvre, hein, pas une numérique. Hein. D'ailleurs, ça s'appelait Winnie, Winnie la chèvre. Et alors, un truc marrant, c'est qu'elle a fait un truc que personne ne s'attendait. À la fin du film, en fait, tout le monde s'incline devant Grace, parce
Nouveau
que
chef,
le
s'il
nouveau
vous plaît.
chef, voilà, parce qu'elle a chopé la bague, en fait. Et il s'attendait pas à ce que ça soit la chèvre qui s'incline en premier avant tout le monde. Et du coup, ça donnait un truc, le symbole, la chèvre, le bouc, enfin le diable, quoi, du coup. Et ça donnait une autre dimension, ça donnait quelque chose d'assez énorme. C'était fait vraiment tout à fait par hasard. Elle devait s'incliner à un moment donné, mais pas en premier, quoi. Et ça,
Oui, j'ai trouvé ça excellent parce que c'est ce que j'avais remarqué dans le plan. On voit clairement la chèvre s'incliner en premier. Et j'étais là, wow, trop fort, comment ils ont fait ça? Bon, c'est une chèvre numérique. Et après, quand tu lis ça, t'es là, wow.
Ouais, c'est vrai que...
Vraiment, vraiment excellent, oui.
Ah oui, mais et la fin, elle est tellement aussi hilarante. Et vraiment, en fait, ils ont repris le concept du premier film où les gens explosaient. Ça, c'était cool, mais ils l'ont tellement grossi. Et là, c'est tout le monde explose d'un coup. Enfin,
Ah oui, pour moi, ça avait un petit côté le parfum, la
ouais, c'est
fin.
vrai,
Il y avait une petite référence, je pense, au parfum, parce que ils veulent tous choper la bague qu'elle a jetée dans le sort de gouffre, là où il y a tous les restes, les cadavres de
Bah
sacri
des
des
secrets,
sacrifices, quoi. Et ils se jettent tous dedans pour choper la bague, parce que faut que quelqu'un la porte avant le lever du soleil. Et puis bah ils explosent quoi parce que personne ne veut céder la
ouais,
bague à
tout le
quelqu'un
monde se
quoi.
tape
Ils se
dessus.
tapent dessus, ils s'entretuent et après surtout voilà, ils explosent et ça fait un peu comme un orchestre, ça fait pof 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 pof.
Il y aurait pu en fait personne n'a survécu hein, même pas celle qu'on voit plus. Il y a la femme d'un des chefs enfin de famille qui se barre à un moment donné théoriquement elle aussi elle est morte et c'est les réalisateurs d'ailleurs qui l'ont confirmé. Ils auraient dû en fait
Oui.
faire une scène mais
Mais pour moi, c'était logique, peu importe où elle était à ce moment-là, parce qu'elle avait signé de son sang dans le livre, donc c'était foutu. Donc voilà, vraiment un très bon film. Si vous avez vu le premier, le deuxième, hein, dites-le nous en commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de cette suite, si vous trouvez aussi qu'elle surpasse le premier film. Moi, je voulais aussi revenir un petit peu sur les deux réalisateurs parce qu'il y a d'autres films cool qu'ils ont fait, dont le Abigail qui était vraiment cool. C'était une belle surprise. On l'avait vu l'année dernière, je crois, Abigail. Et puis il y a Catherine Newton aussi qui joue dedans. Et il y avait aussi un autre acteur qu'on voit tout au début, juste de Wedding Nightmare 2, c'est Kevin Durant qu'on voit, bah c'est lui qui va à l'hôpital pour tuer Grace et qui explose tout de suite parce qu'il veut essayer de la tuer. Et comme le jeu n'avait pas été encore déclaré par le lawyer, par Elijah Wood, bah, la punition c'était d'exploser aussi. On pouvait pas commencer avant que c'était dit, c'est parti et qu'on ait énoncé proprement toutes les règles. J'adore ça, ça doit être fait correctement. Par contre, comment on tue, on s'en fout, hein.
Non, ouais, c'est vrai.
C'est vraiment le côté ironique du truc.
C'est vrai. Et puis, comme si le fait de prononcer le début du jeu, ça faisait une sorte de magie en fait. On dit, bon, le jeu commence, la magie se déclenche en fait.
C'est ça le truc drôle. Moi, j'ai rigolé tout au long, quoi. Déjà, le premier m'avait fait rire, mais alors celui-là, encore plus. C'est vraiment une. Pour moi, c'est une comédie horrifique, clairement.
C'est rare de voir en tout cas un film qui va tenir sur la longueur, sur une suite qui est tout aussi bonne que la première, mais dans un genre différent, dans un développement différent, ce qui fait du coup vraiment enfin du bien au cinéma d'horreur. Est-ce que l'année 2026 serait une bonne année comme on l'a eu en 2025. En tout cas, bah, pour l'instant, oui, avec les films déjà qu'on avait abordés, donc Le Temple des Morts, le dernier Sam Raimi, qui était aussi sorti cette année. Hein, voilà, pour l'instant, c'est un combo parfait, en tout cas pour notre part, puisqu'on a vu ces trois films-là au cinéma. Et puis voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter?
Non, je pense pas. Il y avait le Scream 7 qu'on n'a toujours pas vu. Et il y a un autre film aussi que j'ai hâte de voir. Et c'est encore avec Catherine Newton qui a le rôle principal. Et j'étais vraiment étonnée de voir les autres noms parce que là, on a carrément, pour ceux qui connaissent Jenny Han, l'autrice et ses œuvres et adaptations. D'ailleurs, il y a XO Kitty qui est sorti récemment. Là. Je sais, on n'est plus dans l'horreur, mais parce que dans ce film d'horreur-là, on a un Jenny Han verse. Il y a Lana Condor, donc l'actrice qui interprète Lara Jean. Et on a Gavin Cassa. C'est trop loin. Cassalegno, qui est dans L'été où je suis devenue jolie. C'est pas Conrad, c'est l'autre. J'ai oublié son nom, c'est fou.
Ouais, c'est Team Comrade et Team machin là. Ouais, je sais plus. Moi, je suis Team zéro du rien du tout. Jérémia.
Jérémia, c'est Coffee. Non, Chocolate
Chocolate
is
is
a
a
bean.
bean.
Chocolate is a bean. Pour ceux qui ont un rêve. Enfin, bref, c'est un film d'horreur, The Devil's Mouse. Ça fait penser encore à Sunny Day, la Buffy. Hein.
Ouais,
La
c'est vrai, la bouche de l'enfer,
bouche de
exactement.
l'enfer. Hein. Et voilà, il sort cette année. Et puis il y a encore plein d'autres films. Hein. Mais là, c'était en lien avec Catherine Newton qui est devenue la nouvelle Scream Queen hein, parce qu'elle joue dans beaucoup de films d'horreur. Moi, j'avais adoré Lisa Frankenstein. Toi aussi, non, Yann, t'avais.
Oui, j'ai beaucoup aimé cette version de Frankenstein revisitée à la sauce teen. Ça fait du bien de voir quelque chose un peu de fraîcheur et de proposer enfin des grandes œuvres à la Gen Z qui méritent ces grandes œuvres-là. Que la Gen Z n'est pas que à scroller le téléphone, enfin j'espère bien. Hein? On dirait un vieux boomer qui parle.
Ah oui, là, c'est vraiment le boomer qui parle, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais le film Lisa Frankenstein, ce qui était intéressant, c'était parce que on n'en a pas parlé, hein, on va peut-être en parler dans un épisode, c'est que.
Faut arrêter d'annoncer les films dont on va parler
Oui.
parce qu'on n'est même pas la garantie de les retrouver immédiatement.
Ah bah, ceux qui veulent vraiment qu'on en parle, ils nous le diront dans les commentaires.
Et ils vont s'abonner évidemment et ils vont mettre 5 étoiles.
Au moins 4.
Voilà. Bah, c'est comme ça que ça marche le business. Hein. Venez en Asie, on est tous les entrepreneurs vont vous demander votre avis Google et 5 étoiles.
Et d'ailleurs, il y avait un autre film dont j'avais envie de parler. Je sais pas pourquoi il m'est revenu en tête, parce que Lisa Frankenstein, c'est une femme qui l'a réalisé. Et du coup, j'ai pensé à une autre réalisatrice, c'est pas du tout elle. Et j'ai pensé, parce qu'on y avait parlé. C'était Jennifer's Body, en fait.
Ah, mais oui, on en avait parlé en plus. Ouais. Et c'est ouf parce qu'on l'a revu peu de temps avant qu'on fasse ce podcast. On aurait pu aborder ce sujet depuis longtemps.
Et d'ailleurs, la réalisatrice, elle disait que elle avait carrément annoncé que Lisa Frankenstein se déroule dans le même univers fictif que Jennifer's Body.
Est-ce qu'on aura le droit à un crossover un jour avec tous les
Mais
films?
j'ai vraiment envie de parler de Jennifer's Body parce que c'est un film vraiment mal aimé et qui est un film culte, hein,
Bon,
finalement,
allez, on va
maintenant.
essayer de se retrouver Jennifer's Body et c'est le prochain épisode. Sauf si on voit un film d'horreur entre-temps au cinéma.
C'est vrai. Mais on l'avait revu l'année dernière et je l'ai encore bien en tête. Vraiment, je l'ai vu plus de fois que toi, je crois.
Ouais.
Bon,
Eh,
on
écoute, bah
verra.
vas-y, fais un épisode Jennifer's Body et puis je t'écouterai. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci aux fidèles qui nous suivent depuis le début. Petit teasing, on l'a teasé un peu sur nos réseaux sociaux, mais on sort bientôt un guide de voyage, rien à voir avec les films d'horreur, mais voilà, on est les voyageurs cinéphiles sur YouTube, sur Instagram, donc
Et
vous pouvez
sur
nous
notre
suivre.
site internet,
voyageurscinéphiles.com,
lesvoyageurscinéphiles.com.
et voilà, vous pouvez nous suivre. Et voilà, et on écrit un bouquin, et puis on fait aussi plein de vidéos, donc n'hésitez pas à venir nous suivre aussi sur YouTube.
Voilà, et on vous dit à bientôt
Pour
pour
de
de
nouveaux
nouveaux
films
films d'horreur.
d'horreur.